Merci de nous rejoindre. Voici La Vie de Lyon, votre magazine d'information locale sur Radio Lyon. La Vie de Lyon, c'est aussi La Voix de Lyon avec notre invitée aujourd'hui, ancienne avocate, ancienne politique dans l'écologie. Elle a été sénatrice Europe Écologie Les Verts de Seine-et-Marne et aujourd'hui elle est cuistote à Avallon. Hélène Lipietz, bonjour.
Bonjour.
Alors Hélène Lipietz, on va retracer votre parcours, un beau parcours. Parlez-nous un petit peu de vos origines et puis vos origines aussi, elles sont étroitement liées à Avallon.
Tout à fait, je suis d'une famille avallonnaise du côté de maman, puisque maman est née rue de Paris et tous mes ancêtres remontent à Avallon depuis le XVIIe siècle. Nous avons fait de la généalogie, nous sommes remontés jusqu'au XVIIe siècle. Et mon grand-père était quelqu'un d'assez célèbre à Avallon, puisqu'il était le président des anciens combattants d'Avallon. Et puis, il avait été marchand de cuir, ce qui était normal dans l'Avallonnais à l'époque.
Alors, vous êtes né à Paris.
J'étais exilée à Paris, oui.
L'année où le général de Gaulle revient au pouvoir en France.
Tout à fait.
Vous avez vu, je suis délicat, je ne donne pas.
Tout à fait.
J'essaie de faire preuve d'un petit peu d'élégance. Vous êtes la sœur de l'économiste et homme politique Alain Lipietz.
Non, c'est Alain qui est mon frère. Ne pas confondre.
Ça vous ressemble bien, cela.
Tout à fait, mais je crois que ça fait 58 ans que je suis sa sœur. J'aime bien que de temps en temps, il soit mon frère.
Admettons. Vous avez été la colistière sur la liste de Jean-Yves Collet au municipal à Avallon en 2014, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Et vous avez aussi été à la tête d'un mandat de conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, c'était en Île-de-France, de 2004 à 2010.
Vous savez vraiment tout sur moi.
Ben, les auditeurs vont aussi tout savoir, j'aggrave donc mon cas. Alors Hélène Lipietz, parlez-nous un petit peu de la petite fille que vous étiez.
Allez, pour moi, Avallon, c'est vraiment le paradis sur terre. C'était le paradis sur terre, alors même que déjà, parce que j'avais un grand-père chasseur et pêcheur, j'avais déjà la conscience des problèmes écologiques, notamment avec les tanneries, qui posait énormément de problèmes, mais on ne savait pas les analyser comme on les analyse aujourd'hui. Par exemple, grand-père nous disant, on ne va pas pêcher parce qu'à la tannerie, ils ont relâché des produits. Donc, on n'allait pas pêcher. Et moi, j'étais un peu furieuse parce que du coup, je ne profitais pas de mes vacances. C'était la pêche, c'était les randonnées dans les bois. Je courais les bois à la recherche des champignons, ce que je continue toujours à faire. Et puis, c'est là aussi où j'ai appris à nager dans la Cure ou au Cressant. Donc, c'est vraiment pour moi le bonheur sur terre.
Donc une Hélène Lipietz qui sait faire de la politique, qui est spécialiste de droit, puisque vous avez été avocate aux Assises, on en reparlera bien sûr. Une cuistote, parce que je ne l'ai pas dit au début de l'émission, mais nous enregistrons là ce numéro de La Vie de Lyon dans votre... Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est votre resto-livre?
C'est un resto-livre, c'est-à-dire restaurant et bouquinerie. C'est pour ça que je demande que le livre reste présent dans notre société et dans notre vie de tous les jours.
L'établissement s'appelle le Poirier au Loup et c'est au 7 rue du Maréchal Foch à Avallon. Donc vous savez chasser.
Je chasse les champignons.
C'est ça.
Je peux chasser, taquiner le goujon. La chasse en elle-même n'est pas quelque chose qui me déplairait, mais je n'ai pas eu le temps. Je ne suis pas une écologiste anti-chasse. Je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où nous avons supprimé les grands prédateurs que sont, par exemple, le loup, nous avons des problèmes, notamment, et que nous mettions beaucoup trop de cultures à proximité des sangliers. Nous avons énormément de problèmes avec les sangliers, par exemple. Et l'autre jour, sur la route, en venant depuis Paris, eh bien, nous avons failli nous prendre un sanglier. Et nombre d'Avallonnais ou d'Avallonnaises ont certainement eu cette peur. Donc, effectivement, il y a un problème de la gestion du gros gibier. Et je pense qu'il ne faut pas taper sur les chasseurs, mais qu'il faut travailler avec eux sur la gestion du gros gibier.
Voilà peut-être un discours qui n'est pas politiquement correct dans le monde politique écologiste.
C'est pas grave, j'ai jamais été politiquement correct, j'essaye simplement de faire ce qui me paraît le meilleur pour la nature et pour l'être humain.
Alors si vous le voulez bien, Hélène Lipietz, on marque un premier intermède musical et puis on reprendra cette Vie de Lyon avec vous pour que vous nous parliez de Saint-Cloud, de votre scolarité. Pas mal de choses à dire, des souvenirs. Nous sommes avec Hélène Lipietz, c'est la Vie de Lyon sur Radio Lyon.
Quand Quand en ville le grain se lève, vent de nerfs agité, que se ternissent les rêves. Dans ma réalité, je veux des balades sur la grève. Oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve. Dans ma réalité, que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage.
Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3, un bonheur simple mais à mon goût.
C'est un peu vrai mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Oh, que neige alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan brise talus pour sécher le sel de mes larmes. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage.
Elle a ouvert le Poirier au Loup à Avallon, au 7 rue du Maréchal Foch. C'est un reste au livre. On reviendra sur ce concept tout à fait original. C'est une ancienne avocate, écologiste. Elle fut sénatrice Europe Écologie Les Verts de Seine-et-Marne. Et elle est aujourd'hui, j'ai l'impression, avec bonheur, devant le micro de la Vie de Lyon. Tout va bien, Hélène Lipietz ?
Oh, tout à fait. Ne m'intimidez pas trop.
Non, mais je n'ai jamais intimidé qui que ce soit. Hélène, avant la pause musicale, je vous invitais à nous parler un petit peu de votre enfance. Alors, vous avez expliqué les vacances que vous passiez avec un plaisir immense à Avallon, mais vous êtes née à Paris et puis, j'allais dire, vous avez grandi dans la banlieue chic de Saint-Cloud.
Tout à fait, j'ai grandi à Vaucresson, qui est juste la première sortie sur l'autoroute de l'Ouest, à côté de Versailles. J'ai grandi dans un milieu bourgeois, il faut être clair, mon père était directeur de société. Mais en même temps, c'était des gens profondément sociaux, au sens où l'on pouvait être des patrons sociaux. À l'époque, c'était pas un antagonisme, hein. On était dans les années 58, donc 50, il y avait encore cette idée que le patron n'était pas là simplement pour faire de l'argent, mais pour développer l'entreprise, et que pour développer l'entreprise, il fallait aussi que les gens qui travaillent dans cette entreprise se sentent bien, et c'était quelque chose de fondamental. Donc j'ai eu une éducation, on va dire de gauche, à défaut d'être gauchiste, mais au moins une éducation de gauche, de centre-gauche, et alors que j'étais dans un milieu qui déjà commençait à être de droite, même si aujourd'hui la ville où habite encore ma mère de 95 ans n'a plus rien à voir avec celle de mon enfance, où vraiment on a eu une boboïsation et un enrichissement de cette banlieue ouest de Paris, parisienne, qu'on n'avait pas encore à mon époque. Il y avait encore des petits métiers. Ma voisine, son mari était cuisinier dans un hôtel. Elle-même, elle avait été brodeuse, petite main chez un grand couturier. Donc on avait ça. Et c'est là où on voit qu'aujourd'hui, on a quand même une séparation spatiale des fortunes qui commencent vraiment à être très très lourdes. Et puis après, j'allais au lycée à Saint-Cloud.
Alors au lycée à Saint-Cloud, vous y avez pas côtoyé, mais en tout cas le même établissement que la fille d'un homme politique fameux.
Tout à fait, j'étais de la même promotion qu'une des filles Le Pen, je ne sais pas laquelle ce n'est pas Marine, c'est son aînée, parce que à Saint-Cloud, il y a le fief Le Pen qui venait tout juste de l'hériter de façon quelque peu étonnante. Mais là, je vous laisse vos auditeurs aller chercher sur Internet toute la polémique autour de cet héritage. Et donc, il y avait effectivement Marine Le Pen, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ces années-là, c'est-à-dire dans les années 70 à 76, toute la société était extrêmement politisée. Et dès on sortait de 68, hein, moi j'ai vécu 68 à l'école primaire, mais dès 70, quand j'étais au collège, déjà on parlait politique et les enfants avaient énormément une discussion politique. Moi je me souviens d'avoir parlé politique dès le collège, ce qui est certainement quelque chose de beaucoup plus rare aujourd'hui. Quand j'ai discuté avec certains élèves que je rencontre, ça paraît quelque chose d'assez étonnant pour eux.
Mais vous ne pensez pas que les idéaux politiques ont disparu en 2016 par rapport à votre génération, Hélène ?
Je crois qu'effectivement, il y a eu le sens du collectif me paraît avoir énormément disparu. Et c'est dommage parce que on vit en société. La société, c'est pas un individu à côté d'un autre individu, c'est deux individus qui interagissent. Alors quand vous imaginez, on est 60 millions de personnes qui habitons sur le territoire français, l'interaction est profonde. Et c'est pour ça que la politique est quelque chose de fondamental pour moi, puisque la politique, c'est l'art d'essayer de faire que tous ces gens s'entendent et qu'on aille ensemble vers un chemin meilleur, vers un monde meilleur. C'est pour ça que la politique m'intéresse tellement.
Mais adhérez-vous à l'idée selon laquelle la confiance dans le politique est tombée bien bas ? Vous savez qu'il y a un rejet du politique, vous le savez bien.
Ce qui est amusant, c'est qu'il y a un rejet, non pas du politique, mais du monde politique. Et ça ne m'étonne pas, parce que le monde politique tel qu'il nous apparaît à la télévision et dans les grands médias, c'est un microcosme. Ce sont des gens qui n'ont strictement rien à voir avec moi. Parce que ces gens-là, ils sont là depuis des années, ils monopolisent la parole et ils ne travaillent pas la chose publique. Moi, je fais de la politique depuis, je ne sais plus quand j'étais engagée, il y a plus de 20 ans. J'ai toujours été au plus près du terrain, aussi bien quand j'étais conseillère municipale, puis conseillère régionale, puis quand j'étais sénatrice. J'ai rencontré, pendant mes 22 mois de mandat, c'est très court, mais j'ai rencontré toutes les semaines, je rencontrais des acteurs de terrain. Et tous les gens me disaient, mais êtes-vous vraiment sénatrice ? Je disais, oui, parce que c'est ça, être femme politique, c'est aller au plus près du terrain. Le problème, c'est qu'après, il y a l'ego qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, et c'est toute la classe politique qui en a été éclaboussée lorsque l'ego de certains éclate.
Des études de droit à Nanterre, je reviens sur le parcours, donc de 1976 jusqu'en 1982, vous avez rencontré votre mec. Vous ne dites jamais votre mari, mais vous avez rencontré un mec.
J'ai rencontré un mec, j'ai rencontré mon digne époux, que j'ai épousé, bien évidemment, dans la Vallonnais, à Cure, puisque l'abbé Lacroix était un grand ami de ma grand-mère et que je le rencontrais régulièrement à la table de ma grand-mère. Et puis Cure, c'est tellement joli, cette méandre de la Cure et cette église postée au sommet de ce méandre, c'est vraiment quelque chose d'absolument formidable pour moi.
Petit épisode délicieux avec votre mec. J'utilise votre
tout à fait votre mon vocabulaire.
Vocabulaire. Vous avez créé une association.
Oui, nous avons créé le premier mois où nous nous sommes rencontrés, c'était en tout bien tout honneur à l'époque, nous avons créé l'association de défense des fantômes opprimés pour défendre ces pauvres fantômes, puisqu'il venait d'y avoir un arrêt du Conseil d'État italien déclarant que la présence d'un fantôme dans une maison ne rendait pas nulle la vente parce qu'un fantôme n'existait pas.
En tout cas, ce n'est pas un fantôme qui est aujourd'hui devant le micro de La Vie de Lyon, je puis vous l'assurer. C'est Hélène Lipietz qui est en notre compagnie. On se retrouve avec elle dans une poignée de minutes. Radion.
again.
Rejoignez, bienvenue dans La Vie de Lyon, le magazine d'information locale de Radion. C'est Hélène Lipietz qui est en notre compagnie, ancienne avocate, écologiste. Elle a été sénatrice en remplacement de Nicole Bric, qui avait été appelée au gouvernement Hérault pour devenir ministre de l'écologie et du développement durable. Donc vous l'avez remplacée pendant 22 mois donc, au Sénat, c'est bien cela ?
Tout à fait, et après elle est devenue ministre des affaires du commerce extérieur, parce qu'elle avait osé dire, avec raison, qu'il ne fallait pas développer la recherche de pétrole offshore au large de la Guyane.
Quelle audace !
Eh oui, mais du coup, elle est restée même pas trois semaines au poste de ministre de l'écologie. Et on l'a recasée au ministère du commerce extérieur.
Je précise que vous êtes aussi devant ce micro parce que en mai 2016, à Avallon, vous avez ouvert un Resto Livre. Donc c'est un restaurant où vous cuisinez bio, local, équitable et également vous êtes bouquiniste.
Tout à fait.
Mais on en parle plus tard. Alors moi j'aimerais que Hélène Lipietz nous parle de sa formation en droit et de cette carrière d'avocate qui vous a occupé pendant de nombreuses années.
Pendant 25 ans. Bien, j'ai commencé mes études de droit à Nanterre en septembre 76, ce qui m'a permis d'ailleurs, c'est pas en septembre, c'était en octobre, à l'époque on rentrait très tard, ce qui m'a permis de rester 2 mois de plus à Avallon, donc c'était vraiment parfait. Et j'ai découvert un monde absolument farfelu qui est le droit, parce qu'on dit toujours que le droit a quelque chose de strict et de sévère, alors que moi je l'ai vécu comme vraiment un monde totalement farfelu, notamment à l'époque, puisque maintenant ça a été hélas changé par mes confrères et consoeurs, mes collègues sénateurs, les lapins étaient des immeubles. Et donc, en mon premier cours de droit, j'ai appris que les lapins de Garenne, attention, pas n'importe quel lapin, les lapins de Garenne étaient des immeubles, je me suis dit que j'avais trouvé mon bonheur et que c'était là où j'allais me sentir bien. Et donc, j'ai fait des études de droit. J'ai fait, à l'époque, c'était un DEA de théorie du droit. On était 7 ou 8, où j'ai fait la logique juridique, enfin des choses extrêmement sérieuses où je me suis vraiment éclatée. Après, je suis devenue fonctionnaire. J'étais chargée d'aider les travailleurs sociaux à comprendre le droit, ce qui n'était pas une mince affaire, au Conseil général de Seine-et-Marne. Et puis je suis devenue, quand mon mari a créé, vous voyez, de temps en temps je dis mon mari et non pas mon mec, quand mon mari a créé son cabinet d'avocat, je suis devenue associée avec lui et j'étais au départ, j'ai commencé à faire énormément de cours d'assises, notamment je défendais les enfants incestués, c'est-à-dire les enfants victimes d'inceste.
Vous m'avez dit, avant que nous n'enregistrions cette émission, vous m'avez dit, les assises c'est un trip supérieur à une prise de cocaïne.
Je n'ai jamais pris de cocaïne, mais je pense qu'effectivement, ce devait être ça doit y ressembler. Parce que il y a dans la montée en puissance de la scénographie des assises, quelque chose déjà d'absolument incroyable. Et quand arrive le moment de la plaidoirie, que l'on soit aussi bien en défense ou que l'on représente les victimes, il va falloir qu'en une demi-heure, trois quarts d'heure, bon, ma plus grande plaidoirie a été de trois heures, on dise la quintessence de l'affaire, de la personne que l'on représente et de ce que le droit dit sur cette affaire. C'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Après, lorsqu'on redescend, on vit avec la cour d'assises, avec ce qui s'est passé pendant au moins deux ou trois jours. Ce qui fait que c'est extrêmement prenant et alors que c'est extrêmement mal payé. Sauf si on est de grands avocats d'affaires, d'assises, ce qui n'a jamais été mon cas parce que c'était tellement prenant que du coup j'ai arrêté parce qu'il fallait bien faire vivre le cabinet. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Vous avez de l'admiration pour un maître Jacques Vergès, par exemple ?
Oui, parce que je pense qu'il faut avoir du courage d'affronter, on va dire, la rumeur commune, d'affronter le ressenti commun. De même que j'ai quelquefois défendu des pères incestueux ou des oncles incestueux. Et lorsque vous commencez à plaider et que vous voyez devant vous un mur quasiment de haine de la part du jury, vous dites comment est-ce qu'on va arriver à percer ce mur, parce que derrière toute personne, il y a un être humain qui a eu aussi une histoire qu'il faut entendre. C'est extrêmement difficile. Donc Vergès, qui arrivait à défendre tout le monde, est quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais il n'y a pas que des grandes figures comme ça. Je pense à l'ancien bâtonnier de Melun, qui était un juif dont la famille a été... La moitié de la famille a été déportée et quand il est devenu avocat, ça devait être dans les années 45-46, à la libération, le bâtonnier l'a désigné d'office, pour défendre un collabo qui avait dénoncé des juifs. Et le bâtonnier lui a dit, de toute façon, si vous êtes avocat, vous devez être capable de le défendre. Et il l'a défendu. Et là, je tire mon chapeau parce que je sais la difficulté qu'il y a à comprendre justement ce qui nous bouleverse au plus intime de l'avocat. Derrière l'avocat, il y a toujours l'être humain et c'est parfois extrêmement difficile.
Pas de regret aujourd'hui d'avoir quitté les prétoires, les grandes plaidoiries, la rhétorique de l'avocat?
Quand je n'ai pas de clients, oui, je regrette, parce que c'est vrai que je m'ennuie un petit peu. Mais quand j'ai des clients, je trouve que de savoir faire plaisir aux gens, de savoir cuisiner et qu'à la fin du repas, ils me disent « qu'est-ce que je me suis régalée », pour moi, c'est aussi beau que lorsqu'un client me disait merci.
Hélène Lipietz, vous restez avec nous. Nouvelle intermède musicale et on se retrouve dans un petit instant. C'est La Vie de Lyon sur votre radio locale.
Love, is it love, or is it love? But I'm sure of how it feels to sit, lie, cause I don't know how to love you, baby. Is it love? Is it love? Oh, love. But I'm sure of how it feels to love you, my baby.
Hélène Lipietz est devant le micro de La Vie de Lyonne aujourd'hui. Hélène Lipietz, alors avant d'être la cuistote que vous êtes aujourd'hui au Poirier-Houlou à Avallon, vous avez été sénatrice de juin 2012 à mai 2014. Il faut évoquer cet épisode assez remarquable.
Je ne sais pas s'il est remarquable, mais c'est encore un rêve. Je ne suis pas encore retombée sur mes pieds. Des fois, je me regarde et je me dis, c'est pas vrai que j'ai été sénatrice. C'est quand même quelque chose d'absolument incroyable pour une juriste. Donc quelqu'un qui a étudié le droit, quelqu'un qui l'a appliqué en tant que fonctionnaire, quelqu'un qui l'a critiqué et de façon assez acerbe en tant qu'avocate ou auteur d'articles. Et après, je me retrouve à la commission des lois à faire la loi, c'est-à-dire à faire la règle de vie, dans la vie règle commune, la règle du jeu de la société. Pour moi, c'est absolument extraordinaire, sans compter le cadre magnifique que sont les palais de la République.
En juin 2012, vous succédez à Nicole Bricq.
Tout à fait, qui était une grande dame au Sénat, puisque c'était la première femme qui a été nommée à la commission des finances, qui avait le poste de rapporteur à la commission des finances. Donc c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement pointu en matière de finances, auquel je ne connais strictement rien, ou je ne connais plus rien maintenant. Et moi j'ai eu cette chance d'aller à la commission des lois, où là j'ai rencontré parmi les plus grands juristes, y compris d'ailleurs de mes professeurs d'université.
Alors il n'est pas rare d'entendre de nombreuses critiques concernant le Sénat et sa raison d'être. Vous dites qu'aujourd'hui vous êtes plutôt favorable au bicamérisme, alors qu'à une certaine époque vous considériez le Sénat comme superflu et coûteux aussi, car cela coûte cher.
Le Sénat coûte cher, mais toute la démocratie coûte cher. C'est tellement plus simple la dictature, c'est tellement plus facile de tout remettre à un seul homme. Pourquoi est-ce qu'on se fatigue à avoir une démocratie? Allons à la dictature. Donc je pense que le Sénat a un avantage fondamental, c'est de permettre de travailler les textes. Nous sommes quand même parmi les 10 nations les plus riches du monde. Nous sommes capables d'avoir des textes juridiques absolument pertinents. Le coût d'une relecture par le Sénat d'un texte est minime par rapport au coût induit par une mauvaise écriture d'un texte juridique, coût en procès, coût en réformes qui vont devoir se succéder. Donc le Sénat, en tant qu'il regarde une deuxième fois un texte, est vraiment quelque chose de fondamental. Ça, je n'avais pas conscience de cet élément avant de devenir sénatrice. En revanche, je continue à dire qu'il ne faut pas que le Sénat soit désigné, soit composé comme il est composé aujourd'hui, à base d'élus locaux désignés par d'autres élus locaux, avec du clientélisme comme il y en a en permanence.
Et parfois un peu trop âgé aussi.
Et on va dire manquant un petit peu de couleur et manquant un petit peu de féminin. Lorsque je suis arrivée au Sénat, je crois qu'on était 17% de femmes, plus qu'à l'Assemblée à l'époque, et je suis arrivée jeune au Sénat puisque j'avais 54 ans. J'étais en dessous de la moyenne. Mais je n'avais aucun mandat, ce qui était complètement aberrant. Je n'ai jamais fait deux mandats en même temps. J'ai toujours pensé qu'il fallait que finir un mandat et le faire à fond. D'autres peuvent faire, je pense quand même qu'ils peuvent en faire deux, mais je n'en suis pas sûre. Et en tout cas, je ne refais pas un deuxième mandat parce que ça me paraît bien difficile. Donc le Sénat, il faut qu'il soit composé autrement. Par exemple, qu'il représente à la proportionnelle, que lorsqu'on élit les députés, on élit un député et avec sur une personne, donc un scrutin uninominal comme l'on fait actuellement, et le Sénat élu sur un scrutin national ou un scrutin régional à la proportionnelle
donc.
Tout à fait.
Alors on évoque trois hommes que vous avez croisés au Sénat. Allez, Serge Dassault, Gérard Longuet et quelqu'un qui vous est cher, le sénateur-maire de la Charité sur Loire.
Oui, tout à fait. Donc j'ai oublié le nom, il va m'appeler Jules, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire. C'est un frondeur du PS qui est vraiment une critique de gauche du socialisme qui est vraiment extraordinaire et qui a surtout eu le courage de poser sa critique, alors même qu'il sait qu'il dépend justement de son parti pour être de nouveau investi au Sénat.
Alors Gérard Longuet a dit de vous, c'est ma gauchiste qui vote pour moi.
Tout à fait, parce que contrairement à ce que la presse donne à voir, mais je pense pas à Radio Yonne, les lois ne sont pas votées que par la majorité. Il y a toute une série d'éléments dans une loi qui sont négociés, où l'on arrive à se mettre d'accord, heureusement, entre la droite et la gauche, parce que sinon, on ne pourrait pas faire une loi, et puis surtout, on ne pourrait pas vivre en société. Si tous les gens de droite tapaient sur les gens de gauche, on n'y arriverait pas. Donc c'est bien que la majorité des choses se font en commun. Et Gérard Longuet a proposé un amendement dont je n'ai plus du tout idée aujourd'hui. Je sais simplement qu'il concernait le rattachement d'une commune à une communauté de communes dans son département. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de totalement minime. Son argumentaire m'a paru extraordinairement pertinent. J'avais étudié, bien sûr, avant, j'avais été regardé pour voir s'il ne nous enfumait pas. Et j'ai trouvé qu'il avait raison. Et donc, je n'ai eu aucun problème pour voter son amendement. Et il en était comme de Juan Flan. Et comme je lui ai dit, mais si c'est un amendement et bon, pourquoi est-ce que je cracherais dessus ?
Et puis, d'un autre côté, Serge Dassault avait voté un amendement que vous aviez proposé. Comme quoi la politique, c'est aussi de la cuisine, Hélène.
Tout à fait, mais je me suis dépêchée de retirer mon amendement. Figurez-vous qu'ils ont fait preuve au Sénat d'énormément de mise en avant lorsqu'il s'agissait de montrer qu'eux aussi, eux, sénateurs bien installés dans leur fauteuil, avaient pu être entendus par la police et mis en examen.
Hélène Lipietz est devant le micro, ça s'entend, elle est tonique, femme énergique, je crois que c'est comme ça qu'on peut vous définir. Hein ?
Peut-être.
Allez, on en reparle dans un petit instant, on marque une nouvelle pause musicale, c'est La Vie de Lyon sur Radio.
Les glaces ne l'inquiètent pas, son grain de beauté ne l'inquiète pas, quelle classe. Elle t'a offert des roses noires, elle t'a poussé dans la baignoire, puis elle a fait un grand écart.
Tout le monde dit que c'est elle, elle qui t'emmènera. Tout le monde...
elle n'habite plus ici. Pourquoi ces photos sont-elles tristes? Et pourquoi t'es si égoïste? Tu sais pas. Tu l'as revue chez des amis. Elle avec moi, toi avec lui. Vous n'avez pas l'effet de lui. Quelle nuit. Tout le monde dit que c'est elle, qu'elle est faite pour toi. Tout le monde dit que c'est elle, tout le monde dit retiens-la. Oui, je sais bien. Tout le monde dit que c'est elle, elle qui t'emmènera. Tout le monde dit que c'est elle, elle qui t'enterrera. Je sais bien. Oui, je sais bien. Non, l'Amérique ne l'inquiète pas.
Radion.
Hélène Lipietz, alors reprenons la conversation dans La Vie de Lyon. Vous, aujourd'hui, vous avez plaisir à dire que vous êtes cuistote à Avallon. Cela s'appelle le Poirier au Loup. Ça se situe 7 rue du Maréchal Foch. En fait, c'est le long des belles promenades à l'arrière du monument aux morts d'Avallon. Et c'est un reste au livre, le Poirier au Loup. D'où vient le nom, le Poirier au Loup?
Eh bien, d'une terre qui appartenait à mon arrière-grand-mère, une terre qui se situe à Rouvray. Donc aujourd'hui, quand vous regardez une carte d'état-major, vous voyez qu'il y a encore un champ qui s'appelle le champ du Poirier au Loup. Les Poiriers au Loup, c'était des arbres où l'on pendait les loups lorsqu'on arrivait à les attraper vivants. Et donc je trouve que pour une écologiste, c'est un moyen pour moi de rendre hommage à ces pauvres bêtes qui ont le malheur d'être exactement sur la même niche écologique que l'être humain.
Alors cette maison où se trouve votre resto-livre Le Poirier au Loup, c'est une maison qui vous appartient? C'est une demeure qui a été habitée?
Tout à fait, c'est l'ancien cabinet d'un avocat qui s'appelle Maître Tarieux, je crois, qui s'était fait tirer dessus sur la promenade des Capucins un jour dans les années 70. Et donc j'ai trouvé ça assez amusant de récupérer cette maison que j'ai achetée avec mon cher et tendre il y a maintenant 8 ans.
Alors quelle est la spécificité du Poirier au Loup?
Alors d'abord, c'est un restaurant. C'est-à-dire que je ne fais pas table d'hôte. Et pourtant, tout le monde est persuadé que c'est une table d'hôte parce que tout simplement, j'ai repris la vieille coutume qui date d'avant la Révolution française d'avoir des tables uniques. J'ai deux pièces avec deux tables uniques et donc nous avons un menu unique sur des tables communes. Et c'est très agréable parce que les gens se rencontrent et discutent ensemble. Il y a l'interdiction de se servir des portables et autres tablettes.
Il y a beaucoup d'interdits chez Hélène Lipietz.
Tout
à fait. On
n'a pas
le droit de fumer, même sur la terrasse, il est interdit de fumer. On n'a pas le droit de sortir, de dégainer un portable ou une tablette. C'est surprenant. Ce n'est pas très en harmonie avec les valeurs que vous défendez.
Si, parce que comment... Tout ce qui vous renferme, tout ce qui vous empêche de voir l'autre est contraire aux valeurs du Poirier au Loup. Or, quand vous fumez, vous empoisonnez l'autre. Parce que quand vous êtes en train de manger, eh bien, d'avoir un fumet de cigarette qui vous arrive sous le nez, c'est pas très agréable.
Oui, mais en plein air.
Mais en plein air aussi bien. On voit que les fumeurs ne savent plus ce que c'est que d'avoir de l'air pur, sans aucun bruit.
Hélène Lipietz, est-ce que le savoir-vivre, ça ne se partage pas?
Mais le savoir-vivre, c'est celui qui gêne l'autre qui doit l'apprendre. Vous mangez. Lorsque vous mangez, vous avez besoin, ce qu'on oublie très très souvent, vous avez besoin de vos yeux. Alors actuellement, c'est la grande mode, hein, il faut faire des choses très très belles. Vous avez besoin de vos yeux, vous avez besoin de vos papilles et vous avez besoin de votre nez. Le nez ne sert pas simplement à humer le vin, il sert aussi à humer les plats. Vous ne pouvez pas goûter un plat si vous n'avez pas de nez. Or, la cigarette... si vous avez de la fumée de cigarette qui vous arrive dans le nez, bien vous ne sentez pas certaines molécules qui se dégagent des plats. Et je trouve ça dommage. En plus, c'est pas très poli pour la cuistotte qui s'est embêtée à faire des bons plats et il y a les fumeurs qui lui gâchent les plats.
Mais l'ancienne 68arde de cœur que vous êtes, n'est-il pas interdit d'interdire ?
Il est interdit d'interdire tout ce qui nuit à autrui. Il faut interdire, et puis j'interdis pas de fumer, rien n'empêche les gens de sortir loin de ceux qui ne fument pas pour aller fumer. Mais bon, apparemment ça ne pose pas de problème, et je peux vous dire en tout cas que les non-fumeurs me remercient, parce que c'est vrai que c'est nous les non-fumeurs qui nous trouvons souvent être obligés de rester à l'intérieur d'un restaurant, parce que dehors, sur la terrasse, ben, y a les fumeurs qui ont... Allez, vampiriser l'air pur de la terrasse.
Alors, le Poirier au Loup, c'est un resto bio, équitable, local et solidaire.
Tout à fait.
Que d'adjectifs ?
Parce que j'essaye de mettre en application ce qui sont mes idées politiques. Donc, bio, mais parce qu'à Avallon...
C'est un restaurant politique, vous me l'avez dit.
Mais bien sûr, tout à fait. Mais la nourriture est extrêmement politique. Faut-il que je vous développe ça ? Parce que là, j'en ai pour 10 heures à vous expliquer pourquoi.
Nous n'avons pas le temps, Hélène.
Voilà. Il suffit simplement de voir que les pauvres, ce sont ceux qui souffrent le plus d'obésité. Et rien que ça vous permet de comprendre qu'effectivement, la nourriture est un problème politique.
Alors, le bio est local, certifié. Là, je vois, il est écrit « Toutes nos viandes sont d'origine, non pas française, mais elles sont d'origine bourguignonne ».
Tout à fait. Je suis très fière d'être bourguignonne. Et donc, effectivement. Mais nous avons une chance d'avoir à Avallon énormément de producteurs bio locaux. Et puis, ils sont solidaires. Je crois que ça, c'est important. La solidarité. Tous mes meubles viennent de recycleries, d'associations d'insertion, Second Souffle à Époisses, Emmaüs à Avallon, puis maintenant à Auxerre. Mes tables à l'extérieur, où l'on n'a pas le droit de fumer, sont fabriquées par les Hâtes du Morvan. Et je pense que c'est fondamental que les gens se rappellent qu'on n'est pas seul en société. C'est aussi ça de la politique, que la société, encore une fois, c'est créer des liens, et que les liens sociaux vont du plus riche au plus pauvre, de celui qui a le plus gros coefficient intellectuel à celui qui en a le moins. Et c'est ça qui est formidable dans une société.
Hélène, dernière pause musicale de l'émission. On reviendra encore un peu sur ce qu'il y a dans l'assiette au Poirier au Loup. C'est 7 rue du Maréchal Foch à Avallon. C'est Hélène Lipietz qui nous accompagne aujourd'hui.
At times I feel used.
Le Resto Livre, c'est le Poirier au Loup, c'était à Avallon, et c'est Hélène Lipietz qui a ouvert ce restaurant en mai dernier. Hélène, ici on se restaure, on ne restaure pas les livres, et pourtant les livres ne manquent pas autour de nous.
Oui, il y a plus de 6000 livres d'occasion autour de nous, sur des étagères. Ça a un avantage, c'est que ça assourdit le bruit. Donc on peut, comme nous sommes autour d'une table commune, on peut parler, les bruits sont absorbés, et puis tout le monde a au moins tenu un livre en main. Et c'est incroyable le nombre de gens qui disent « Ah ben ce livre-là, je l'ai lu, ah ça me rappelle mon enfance, j'ai même un livre de poésie et les gens que je ne vends pas, parce que les gens régulièrement le prennent et chacun se met à lire un poème qu'il a lu ou qu'il a appris dans son enfance. »
Ce sont des petites Madeleines de Proust, d'une certaine manière. Alors, bien sûr, on peut acheter les livres ici, et c'est pas bien cher, hein. Ça va de quoi, 3-4 euros?
Ah non, même pas, ça va de 50 centimes, au plus cher doit être à 150 euros.
Maintenant, dans l'assiette, on mange pour combien chez Hélène Lipietz au Resto Livre?
Le Poirier au Loup. Le repas ordinaire, donc en menu unique, est à 15 euros. Et on peut le faire, si on me prévient assez tôt, si on prévient la veille, je peux même faire quelque chose d'un peu plus recherché au point de vue pour les végétariens. Parce que être végétarien, c'est un peu compliqué. Pour faire un bon menu équilibré, si on prévient la veille, c'est mieux, je peux faire végétarien, mais ça sera aussi pour 15 euros. Et puis, de temps en temps, je fais des repas à thème autour soit d'un vin, soit d'un producteur. Et là, c'est un repas gastronomique, c'est-à-dire que je mets en application ce que j'ai appris en école de gastronomie. Et puis, par exemple, le 7 janvier, mon fils Mailleul vient parler des écrits apocryphes, parce qu'il fait sa thèse sur ce problème. Et après, nous allons manger apocryphes, c'est-à-dire que nous allons essayer de manger un menu basé sur quelques textes apocryphes.
C'est le 7 janvier 2017, donc c'est au Poirier au Loup.
À 17h30.
Voilà. Et on peut donc prendre renseignement auprès d'Hélène Lipietz au 03 86 46 95 63.
Si vous le dites.
C'est l'extrême fin de l'émission, les 10 traditionnelles questions qui terminent la vie de Lyon. Hélène Lipietz, le principal trait de votre caractère?
L'impatience.
La qualité que vous appréciez chez les autres?
La bonne humeur.
Le défaut qui vous incommode chez quelqu'un?
Oh, la suffisance.
Sur une île déserte, qu'est-ce que vous emmenez avec vous?
Alors là, j'emporterai une tablette numérique. Avant, je vous aurais dit la Bible parce que c'est le plus gros livre que l'on peut emporter. Maintenant, la tablette numérique parce qu'on peut emporter tous les livres du monde.
Une musique marquante dans votre vie?
Le temps des cerises.
Tiens donc. La commune, l'épisode...
Oui, la commune, bien sûr. Notre fille s'appelle Louise Michel.
Tiens donc. Un héros ou une héroïne d'enfance?
Mon grand-père.
Un film marquant, un choc cinématographique?
Meurtre dans un jardin anglais quand ils boivent du Chablis de Peter Greenaway, ça date des années 80.
Une lecture inoubliable?
Oh, alors là, j'en ai tellement que je les ai toutes oubliées.
Votre drogue favorite?
Le ski de randonnée.
Et l'homme ou la femme que vous admirez, à part votre mec?
Eh bien, moi-même, tout simplement.
Merci Hélène Lipietz d'avoir été aujourd'hui l'invitée de La Vie de Lyon. Donc, je rappelle, ancienne avocate, vous avez un parcours politique, vous avez été sénatrice Europe Écologie Les Verts de Seine-et-Marne et vous êtes désormais cuistote à Avallon, c'est le Poirier au Loup, c'est un resto-livre au concept extrêmement original. C'est un restaurant politique, hein. On mange bio, équitable, solidaire et local. Merci Hélène Lipietz d'avoir été avec nous et je salue bien sûr toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous suivre. Au revoir, rediffusion de cette émission samedi prochain à 11h, toujours sur Radion. Au revoir.
Au revoir à Yannick.